Ceci est enregistré à l'usage exclusif des jeunes aveugles. Le bon petit Henri, conte de fées de la comtesse de Ségur. Il était une fois une pauvre femme qui était veuve et qui vivait seule avec son petit Henri. Elle l'aimait tendrement et elle avait bien raison de l'aimer, car jamais on n'avait vu un plus charmant enfant. Quoiqu'il n'eût encore que 7 ans, il faisait tout le ménage pendant que la pauvre maman travaillait pour aller ensuite vendre son ouvrage et faire vivre son petit Henri et elle-même. Il balayait, il lavait le plancher, il faisait la cuisine, il bêchait et cultivait le jardin, et quand son ouvrage était fini, il se mettait à raccommoder ses habits, les souliers de sa maman, ou bien à faire des bancs, des tables, et tout ce qu'il avait la force de fabriquer. La maison où ils vivaient était à eux. Elle était isolée. En face de leur fenêtre était une haute montagne, si haute que personne n'avait jamais pu monter jusqu'au sommet. D'ailleurs, elle était entourée d'un torrent, de murs élevés et de précipices infranchissables. Ils étaient heureux et contents, mais un jour la pauvre maman tomba malade. Elle ne connaissait pas de médecin, d'ailleurs elle n'aurait pas eu d'argent pour le payer. Le pauvre Henri ne savait pas ce qu'il fallait faire pour la guérir. Quand elle avait soif, il lui faisait boire de l'eau, car il n'avait pas autre chose à lui donner. Il restait nuit et jour près d'elle, il mangeait à peine un morceau de pain sec au pied de son lit, et quand elle dormait, il la regardait et pleurait. La maladie augmenta de jour en jour, et enfin la pauvre femme fut tout à fait mourante. Elle ne pouvait ni parler, ni même avaler quoi que ce fût. Elle ne reconnaissait plus son petit Henri, qui sanglotait à genoux près de son lit. Dans son désespoir, il s'écria « Fée bienfaisante, venez à mon secours !» « Sauvez ma pauvre maman !» À peine eut-il prononcé ces mots que la fenêtre s'ouvrit et qu'il vit entrer une dame richement vêtue qui lui demanda d'une voix douce « Que désirez-vous de moi, mon petit ami? Vous m'avez appelé? Me voici. » « Madame, s'écria Henri en se jetant à ses genoux et en joignant les mains, si vous êtes la fée bienfaisante, « sauvez ma pauvre maman qui va mourir et me laisser seule en ce monde. » La fée regarda Henri d'un air attendri. Puis, sans dire un mot, elle s'approcha de la pauvre femme, se pencha sur elle, l'examina attentivement, souffla sur son visage et dit « Il n'est pas en mon pouvoir de guérir ta maman, mon pauvre enfant. C'est à toi seule est réservée sa guérison, si tu as le courage d'entreprendre le voyage que je vais t'indiquer. Parlez, madame, parlez, je ferai tout pour sauver ma maman. Il faut, dit la fée, que tu ailles chercher la plante de vie qui pousse au haut de la montagne que tu vois par cette fenêtre. Quand tu auras cette plante, tu en feras couler le jus dans la bouche de ta maman, qui reviendra immédiatement à la vie. « Je vais partir tout de suite, madame, mais qui est-ce qui soignera ma pauvre maman pendant que je ne serai pas là ? Et d'ailleurs, ajouta-t-il en sanglotant plus fort, elle sera sûrement morte avant même que je sois revenu. Sois tranquille, pauvre enfant. Si tu vas chercher la plante de vie, ta maman n'aura besoin de rien jusqu'à ton retour, et elle restera comme tu la vois actuellement. Mais tu courras bien des dangers, tu subiras bien des fatigues avant d'avoir cette plante. Il te faudra un grand courage et une grande persévérance pour la rapporter. Je ne crains pas, madame, de manquer de courage et de persévérance. Dites-moi seulement comment je reconnaîtrai cette plante parmi toutes celles qui couvrent la montagne. Si tu arrives jusqu'en haut, tu appelleras le docteur chargé de la garde de cette plante. Tu lui diras que c'est moi qui t'ai envoyé et il t'en remettra une tige. » Henri remercia la fée en lui baisant les mains, dit au revoir à sa maman, la couvrit de baisers, mit un pain dans sa poche et sortit après avoir salué respectueusement la fée. La fée sourit en regardant ce pauvre enfant de 7 ans qui partait tout seul pour monter sur une montagne si dangereuse que tous ceux qui avaient essayé d'en atteindre le sommet étaient morts. Le petit Henri marcha résolument à la montagne qui se trouva être plus éloignée qu'il ne le paraissait. Au lieu d'y arriver en une demi-heure, comme il le croyait, il marcha toute la journée avant de se trouver à son pied. Au tiers du chemin, à peu près, il vit un corbeau qui s'était pris la patte dans un piège que lui avait tendu un méchant garçon. Le pauvre corbeau cherchait inutilement à se dégager de ce piège qu'il faisait cruellement souffrir. Henri courut à lui, coupa la ficelle qui tenait la patte du corbeau et le délivra. Le corbeau s'envola à tire-d'aile après avoir crié à Henri « Croix, croix !»« Grand merci, mon brave Henri, je te le revaudrai !» Henri fut très surpris d'entendre parler un corbeau, mais il continua sa route. Quelque temps après, pendant qu'il se reposait dans un buisson et qu'il mangeait un morceau de pain, il vit un coq poursuivi par un renard et qui allait être pris malgré des efforts inouïs pour lui échapper. Le coq passa tout près d'Henri, qui, le saisissant adroitement, l'attira à lui et le cacha sous sa veste sans que le renard eût pu le voir. Le renard continua à courir, pensant que le coq avait volé plus loin. Henri ne bougea pas jusqu'à ce que le renard fût hors de vue, alors il laissa aller le coq qui lui dit à mi-voix « Grand merci, mon brave Henri, je te le revaudrai. » Henri était reposé. Il se leva et continua à marcher. Quand il eut fait encore un bon bout de chemin, il vit une pauvre grenouille qui allait être dévorée par un serpent. La grenouille tremblait et ne bougeait pas, paralysée par la peur. Le serpent avançait rapidement vers elle en sifflant. La gueule grande ouverte. Henri saisit une grosse pierre et la lança si habilement dans la gueule du serpent au moment où celui-ci allait dévorer la grenouille que la pierre entra dans la gorge du serpent et l'étouffa. La grenouille s'éloigna en sautant et cria à Henri « Croix, croix !»« Grand merci, mon brave Henri, je te le revaudrai !» Henri, qui avait déjà entendu parler le corbeau et le coq, ne s'étonna plus d'entendre parler la grenouille et continua sa route. Peu après, il arriva au pied de la montagne. Mais il vit qu'il y avait une rivière large et profonde qui coulait au pied et si large qu'on voyait à peine l'autre bord. Henri s'arrêta bien embarrassé. Peut-être, se dit-il, trouverai-je un pont ou un bateau ou un endroit où je pourrais passer à gué. Il se mit à longer la rivière qui tournait autour de la montagne. Mais partout elle était large et profonde, et nulle part il n'y avait ni pont ni bateau. Le pauvre Henri s'assit en pleurant au bord de la rivière. « Fée bienfaisante, fée bienfaisante, venez à mon secours, s'écria-t-il. À quoi me sert de savoir qu'au haut de la montagne est une plante qui sauvera ma pauvre maman si je ne peux pas y arriver ?» Au même moment, le coq qui l'avait protégé contre le renard apparut au bord et lui dit « La fée bienfaisante ne peut rien pour toi ici. Cette montagne est hors de sa puissance. Mais tu m'as sauvé la vie et je veux te montrer ma reconnaissance. Monte sur mon dos, Henri, et foi de coq, je te mènerai jusqu'à l'autre bord. » Henri n'hésita pas. Il se lança sur le dos du coq, s'attendant à tomber dans l'eau. Mais il ne fut même pas mouillé, car le coq le reçut si habilement sur son dos qu'il s'y trouva assis aussi solidement que sur un cheval. Il se cramponna fortement à la crête du coq qui commença la traversée en volant. La rivière était si large qu'il vola pendant 21 jours avant d'arriver à l'autre bord, et pendant ces 21 jours, Henri n'eut ni faim, ni soif, ni sommeil. Quand ils furent arrivés, Henri remercia poliment le coq, qui hérissa gracieusement ses plumes et disparut. Un instant après, Henri se retourna, la rivière avait aussi disparu. « C'est sans doute le génie de la montagne qui voulait m'empêcher d'arriver, » dit Henri. « Mais, avec le secours de la fée bienfaisante, me voici bien près d'atteindre le but. » Il marcha longtemps, longtemps. Mais il avait beau marcher, il n'était pas plus loin du pied de la montagne, ni plus près du sommet que lorsqu'il avait passé la rivière. Un autre enfant aurait retourné sur ses pas. Mais le brave petit Henri ne se découragea pas, et malgré une fatigue extrême, il marcha pendant 21 jours sans avancer davantage. Au bout de ce temps, il n'était pas plus découragé qu'au premier jour. Même si je devais marcher 100 ans, dit-il, j'irai jusqu'à ce que j'arrive en haut. À peine avait-il prononcé ces paroles qu'il vit devant lui un petit vieillard qui le regardait d'un air malin.
« Tu as donc bien envie d'arriver, petit ?» lui dit-il. « Que cherches-tu au haut de cette montagne ?»«
La plante de vie, mon bon monsieur, pour sauver ma pauvre maman qui se meurt. » Le petit vieillard hocha la tête, appuya son petit menton pointu sur la pomme d'or de sa canne et dit, après avoir examiné longuement Henri,
« Ta physionomie douce et franche me plaît, mon garçon. Je suis un génie de la montagne. Je te laisserai avancer à condition que tu me récolteras tout mon blé, que tu le battras, que tu en feras de la farine et qu'avec cette farine tu feras des pains. Quand tout sera récolté, battu, moulu et cuit, appelle-moi. Tu trouveras tous les ustensiles qu'il faut dans le fossé ici, près de toi. Les champs de blé sont devant toi et couvrent la montagne. »
Le petit vieillard disparut et Henri considéra d'un œil effrayé les immenses champs de blé qui se déroulaient devant lui. Mais il surmonta bien vite ce sentiment de découragement, ôta sa veste, prit dans le fossé une faucille et se mit résolument à couper le blé. Il y passa 195 jours et autant de nuits. Quand tout fut coupé, Henri se mit à battre le blé avec un fléau qu'il trouva sous sa main, une espèce de gros bâton. Il le battit pendant 60 jours. Quand tout fut battu, il commença à le moudre dans un moulin qui s'élevait près du champ de blé. Il moulut pendant 90 jours. Quand tout fut moulu, il se mit à pétrir la pâte et à cuire les pains, et il pétrit et cuisit pendant 120 jours. À mesure que les pains étaient cuits, il les rangeait proprement sur des rayons, comme des livres dans une bibliothèque. Lorsque tout fut fini, Henri se sentit transporté de joie et appela le génie de la montagne. Le génie apparut immédiatement, compta 468 329 pains, croqua un petit bout du premier et un petit bout du dernier, s'approcha de Henri, lui donna une petite tape sur la joue et lui dit
« Tu es un bon garçon et je veux te payer ton travail. »
Il tira de sa poche une petite tabatière en bois qu'il donna à Henri en disant avec malice
« Quand tu seras retourné chez toi, tu ouvriras ta tabatière et tu y trouveras du tabac comme jamais, jamais tu n'en as eu. »
Henri ne prenait jamais de tabac, et le cadeau du petit génie ne lui sembla pas bien utile. Mais il était trop poli pour dire ce qu'il pensait. Il remercia le vieillard d'un air satisfait. Le petit vieillard sourit, éclata de rire et disparut. Henri recommença à marcher et s'aperçut avec bonheur que chaque pas le rapprochait du haut de la montagne. En 3 heures, il était arrivé aux 2/3 du chemin lorsqu'il se trouva arrêté par un mur très élevé qu'il n'avait pas aperçu. Il le longea et vit avec effroi, après 3 jours de marche, que ce mur faisait le tour de la montagne et qu'il n'y avait pas la moindre porte par laquelle on put pénétrer. Henri s'assit par terre et réfléchit à ce qu'il devait faire. Il décida d'attendre. Il attendit pendant 45 jours. Au bout de ce temps, il dit « Même si je devais attendre encore 100 ans, je ne bougerai pas d'ici. » À peine eut-il dit ces mots, un morceau de mur s'écroula avec un bruit effroyable et qu'il vit s'avancer par cette ouverture un géant qui brandissait un énorme bâton.
« Tu as donc bien envie de passer, mon garçon. Que cherches-tu de l'autre côté de mon mur ?»«
Je cherche la plante de vie, monsieur le géant, pour guérir ma pauvre maman qui se meurt. Si vous pouvez me faire franchir ce mur, je ferai pour votre service tout ce que vous me commanderez. »
« Ah bon? Eh bien, écoute, ta physionomie me plaît. Je suis un des génies de la montagne et je te ferai passer ce mur si tu veux remplir mes caves. Voilà toutes mes vignes. Cueille le raisin, écrase-le, mets-le en jus dans mes tonneaux et range mes tonneaux dans mes caves. Tu trouveras tout ce qui te sera nécessaire au pied de ce mur. Quand ce sera fait, appelle-moi. »
Et le géant disparut, refermant le mur derrière lui. Henri regarda autour de lui. Aussi loin qu'il pouvait regarder, on ne voyait que les vignes du géant. « J'ai bien ramassé tous les blés du petit vieillard, » se dit Henri. « Je pourrais bien cueillir les raisins du géant. Ce sera un travail moins long et moins difficile de transformer le raisin en vin que de transformer le blé en pain. » Henri ôta sa veste, ramassa une serpette qu'il trouva à ses pieds et se mit à couper les grappes et à les jeter dans des cuves. Il mit 30 jours à faire la récolte. Quand tout fut cueilli, il écrasa le raisin et en versa le jus dans des tonneaux qu'il rangeait dans des caves à mesure qu'il les remplissait. Il fut 90 jours à faire le vin. Lorsque le vin fut prêt, les tonneaux bien mis en ordre, les caves bien arrangées, Henri appela le géant, qui apparut immédiatement, examina les tonneaux, goûta le vin du premier et le vin du dernier, se tourna vers Henri et lui dit
« Tu es un brave petit homme, et je veux te payer de ta peine. Il ne sera pas dit que tu auras travaillé pour rien pour le géant de la montagne. »
Il tira de sa poche un chardon, le donna à Henri et lui dit
« Quand tu seras revenu chez toi, chaque fois que tu désireras quelque chose, sens ton chardon. »
Henri trouva que le cadeau n'était pas un très beau cadeau, mais il le reçut en souriant d'un air aimable. Au même instant, le géant siffla à faire trembler la montagne, le mur et le géant disparurent immédiatement, et Henri put continuer sa route. Il n'était plus qu'à une demi-heure de marche du sommet de la montagne lorsqu'il se vit arrêté par un précipice si large qu'il était impossible de sauter de l'autre côté et si profond qu'il n'en voyait pas le fond. Henri ne perdit pas courage. Il suivit le bord du précipice jusqu'à ce qu'il fût revenu à l'endroit d'où il était parti. Il vit alors que le précipice tournait autour de la montagne. « Que faire ?» dit le pauvre Henri. « À peine ai-je franchi un obstacle qu'il s'en élève un autre. Comment passer ce précipice ?» Et le pauvre enfant sentit pour la première fois ses yeux pleins de larmes. Il chercha le moyen de passer ce précipice, il n'en trouva pas et s'assit tristement au bord. Tout d'un coup, il entendit
ouh, ouh.
En se retournant, il vit à 10 pas de lui un loup énorme qui le regardait avec des yeux flamboyants.
« Que viens-tu chercher dans mes domaines ?» dit le loup d'une voix formidable.
« Monseigneur le loup, je viens chercher la plante de vie pour ma pauvre maman qui se meurt. Si vous pouvez me faire passer ce précipice, je serai votre serviteur dévoué pour tout ce que vous me commanderez.
Eh bien, mon garçon, si tu peux attraper tout le gibier qui est dans mes forêts et me les mettre en rôti et en pâté, foi de génie de la montagne, je te ferai passer de l'autre côté du précipice. Tu trouveras près de cet arbre tout ce qu'il te faut pour ta chasse et ta cuisine. Quand tu auras fini, tu m'appelleras.
Henri reprit courage. Il ramassa un arc et des flèches qu'il vit à terre et se mit à tirer sur les perdrix, les bécasses, les gelinottes, les coqs de bruyère qui passaient. Mais il ne savait pas tirer et ne tuait rien. Il y avait 8 jours qu'il tirait en vain et il commençait à s'ennuyer lorsqu'il vit arriver le corbeau qu'il avait sauvé en commençant son voyage.
« Croix, croix,
tu m'as sauvé la vie, croissa le corbeau, et je t'ai dit que je te le revaudrais. Je viens tenir ma promesse, car si tu n'obéis pas au loup, il te croquera. Suis-moi, je vais faire la chasse, tu n'auras qu'à ramasser le gibier et à le faire cuire. » En disant ces mots, le corbeau vola au-dessus des arbres de la forêt et se mit à tuer à coups de bec et de griffes tout le gibier qui peuplait cette forêt. Il tua ainsi, pendant 150 jours, 1 860 786 pièces, chevreuils, perdrix, bécasses, gelinottes, coqs de bruyère et cailles. À mesure que le corbeau les tuait, Henri les coupait en morceaux, les plumait ou les écorchait, et les faisait cuire, soit en pâté, soit en rôti. Quand tout fut cuit, il rangea tout, proprement, le long de la forêt. Alors le corbeau lui dit
« Croix, croix !»«
Adieu, Henri, il te reste encore un obstacle à franchir, mais je ne peux pas t'y aider. Ne perds pas courage, les fées protègent les enfants qui aiment leur maman. » Avant qu'Henri ait eu le temps de remercier le corbeau, celui-ci avait disparu. Henri appela alors le loup et lui dit « Voici, monseigneur, tout le gibier de vos forêts. Je l'ai cuit comme vous me l'avez ordonné. »
veuillez, s'il vous plaît, me faire passer le précipice. » Le loup examina le gibier, croqua un chevreuil rôti et un pâté, se lécha les lèvres et dit à Henri,
« Tu es un bon et brave garçon. Je vais te payer de ta peine. Il ne sera pas dit que tu auras travaillé pour le loup de la montagne sans qu'il t'ait payé ton travail. »
En disant ces mots, il donna à Henri un bâton qu'il alla chercher dans la forêt et lui dit, « Quand tu auras cueilli la plante de vie et que tu voudras te transporter quelque part, monte à cheval sur ce bâton. »
Henri eut envie de rejeter dans la forêt ce bâton inutile, mais il pensa que ce ne serait pas poli. Il le prit et remercia le loup. « Monte sur mon dos, Henri !» dit le loup.
Henri sauta sur le dos du loup. Aussitôt, le loup fit un bond si prodigieux qu'il se trouva de l'autre côté du précipice. Henri descendit, remercia le loup et continua sa marche. Enfin, il aperçut la barrière du jardin où était enfermée la plante de vie. Il sentait son cœur bondir de joie. Il regardait toujours en haut tout en marchant et allait aussi vite que lui permettaient ses forces quand il sentit tout d'un coup qu'il tombait dans un trou. Il sauta vivement en arrière, regarda à ses côtés et vit un fossé plein d'eau assez large et surtout très long, si long qu'il n'en voyait pas les deux bouts. « C'est sans doute le dernier obstacle dont m'a parlé le corbeau, » dit Henri, « puisque j'ai passé tous les autres, avec le secours de la bonne fée bienfaisante, elle m'aidera bien certainement à surmonter celui-ci. C'est elle, sûrement, qui m'a envoyé le coq et le corbeau, ainsi que le petit vieillard, le géant et le loup. Je vais attendre qu'il lui plaise de m'aider cette dernière fois. » En disant ces mots, Henri se mit à longer le fossé dans l'espoir d'en trouver la fin. Il marcha pendant 2 jours, au bout desquels il se retrouva à la même place d'où il était parti. Henri ne s'affligea pas, ne se découragea pas. Il s'assit au bord du fossé et dit, « Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que le génie de la montagne mais fait passer ce fossé. » À peine avait-il dit ces mots qu'il vit devant lui un énorme chat qui fit « Miaou !
Miaou !
Miaou ! »
de façon si épouvantable qu'Henri en fut tout étourdi. Le chat lui dit, « Que viens-tu faire ici? Sais-tu que je pourrais te couper en morceaux d'un seul coup de griffe?
Je n'en doute pas, monseigneur le chat, mais vous ne voudrez pas le faire quand vous saurez que je viens chercher la plante de vie pour sauver ma pauvre maman qui se meurt. Si vous voulez bien me permettre de passer votre fossé, je suis prêt à faire tout ce qu'il vous plaira de me commander. »
« En vérité, dit le chat, écoute, ta figure me plaît. Si tu veux me pêcher tous les poissons qui vivent dans ce fossé, si tu peux, après les avoir pêchés, me les faire cuire ou me les saler, je te ferai passer de l'autre côté foi de chat. Tu trouveras tout ce qu'il te faut